Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel. Tous les lundis, on parle de l'actualité des livres. Et aujourd'hui, on reprend notre sélection des premiers romans de la rentrée qui nous ont marqués. Avec donc deux invités ce matin, Lou Darsan qui publie à la Contre-Allée L'Arrachée Belle et David Fortems qui publie chez Robert Laffont Lui veut partir. Deux romans contemporains sur l'impossibilité de fuir son milieu social ou sur le prix à payer quand on se paye le luxe d'échapper à toutes les assignations. Lou Darsan et David Fortems sont mes invités ce matin.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour tous les deux. Bonjour David Fortems. Bonjour Lou Darsan.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a donné d'ailleurs envie de vous lancer dans la littérature, d'écrire ce premier roman pour vous, Lou Darsan?
Je pense que c'est l'écriture qui a toujours été là. Et j'ai toujours écrit. Et je pense qu'à un moment... Les notes ont formé un roman et vraiment c'est quelque chose, c'est pas juste écrire voilà pour témoigner de quelque chose, c'est vraiment faire jaillir des sensations, des perceptions et puis après voilà l'histoire qui est sortie est ce qu'elle est.
Et David Fortems, pour vous?
Mais de manière assez similaire, je pense que l'écriture c'est avant tout un métier, donc c'est voire même une vocation, donc on y... Moi, j'ai toujours aussi voulu écrire et par contre, moi, je prends pas de notes, donc tout se passe dans la tête et ça jaillit au moment de la rédaction, mais c'est pareil, ça a toujours été là.
Lou Darsan, pour parler de votre premier roman, donc, L'Arrachée Belle, c'est l'histoire d'une femme qui décide presque du jour au lendemain, même si elle réfléchit au début et puis elle décide de tout quitter, claquer la porte à sa vie d'avant, à sa vie de couple. Et on devine un peu pourquoi, parce que elle était très seule dans sa vie de couple, quitter le monde et puis partir. Alors au début, elle sait pas où elle va et surtout, on ne sait pas où elle nous entraîne. Alors d'abord en voiture, ensuite en autostop, ça finit à pied et puis on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on avance dans cette histoire très étrange que ce voyage, c'est peut-être une manière pour le personnage de votre roman de trouver un sens à la vie, de se ressourcer et pour arriver bien sûr au thème contemporain, pour rentrer en harmonie avec la nature. Mais on ne sait pas grand-chose sur cette femme. D'ailleurs, on ne sait même pas comment elle s'appelle.
Elle n'a pas de nom c'était vraiment, vraiment volontaire parce que je voulais que cette femme qui quitte vraiment tout ce qui fait son identité ne puisse plus être définie par autre chose qu'elle-même et ce qu'elle ressent et le prénom en faisait partie avec voilà cette espèce d'idée effectivement que elle va vers une forme de dépouillement de plus en plus total voilà dans le but de se trouver et ce qui va se permettre oui c'est ça par une harmonie avec la nature mais surtout aussi par ses perceptions, ses sensations. Et je pense que c'était vraiment ça pour moi qui la relie finalement.
Alors ce qui rend votre récit intéressant, intrigant, c'est que on n'est pas dans la facilité où la nature, c'est très bien, la nature, on va la découvrir, la nature, elle va nous ressourcer. Ben non, parce que c'est une quête qui est plutôt dure, hein. C'est âpre, c'est mystérieux. Vous faites souffrir votre personnage et donc le lecteur qui la suit.
Oui, parce que déjà, je pense que quand on décide de tout quitter du jour au lendemain, c'est déjà, je pense qu'on souffre. C'est rare de faire ça quand on n'a pas une nécessité presque impérieuse de se défaire ou de quitter ce qui ne va pas et ce qui enferme. Et puis la nature, elle est à la fois très belle, mais c'est faut composer avec, surtout quand on a l'habitude de vivre enfermé dans un appartement, un travail, une voiture et la rencontre provoque forcément des frictions corporelles ou même, enfin voilà, c'est quelque chose de fort de se retrouver tout seul mais au bord d'une route, ouais. Marcher pieds nus.
Oui, parce qu'elle réinvente voilà. Le nomadisme en Europe. Hein.
Voilà, ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Le nomadisme, c'est un terme que j'emploie et je pense qu'elle passe d'une errance réelle où elle sait pas du tout où elle va vraiment au début. Là où on l'amène en autostop, où elle a, enfin voilà, et puis finalement avec de plus en plus, les rangs se transforment en je vais quelque part, même si je ne sais pas encore où. Et puis, il y a cette espèce d'idée qui est importante pour moi de descendre de la montagne vers la mer. Je pense que c'est une forme de nomadisme.
Quand j'ai fini de lire ce roman, j'avais l'envie de mieux vous connaître, puisque c'est votre premier roman, L'Arrachée Belle. Et vous vous êtes présenté en disant je me considère comme écrivain nomade.
Ouais, je crois que j'ai dit écrivaine. Mais
oui, elle est écrivaine, oui. Bon.
Mais oui, c'est vrai que ça fait 3 ans aujourd'hui, un peu plus maintenant même, que je voyage. Et que du coup, je me considère comme nomade, c'est-à-dire étant toujours en mouvement entre deux points, même si...
Chez les uns, chez les autres, ou...
Je l'ai vécu de plusieurs façons en 3 ans. Actuellement, j'ai un petit van aménagé, donc qui me permet de voyager à travers l'Europe. Donc c'est pas du tout du dépouillement, c'est quand même une maison sur roulette, et c'est très confort, c'est très cosy. Je pense que c'est venu progressivement, puis il y a une forme de fascination depuis l'enfance, en fait, et un désir de voyage, mais qui ne soit pas juste aller quelque part et revenir, mais plutôt un intérêt pour le fait d'être dans une forme de mouvement comme ça, être toujours, pas sur la route, mais parce qu'il faut aussi savoir faire des pauses.
Et pour travailler, pour avoir un peu d'argent et continuer à mener ce genre de vie.
Voilà, éventuellement, puis ne serait-ce que parce que je pense que c'est pas tenable de se déplacer tous les jours. À un moment, le corps comme l'esprit, on a besoin déjà d'un peu plus de confort que quand on se déplace, et puis de pouvoir se dire je suis là et j'habite là dans cet endroit, et tout en sachant que c'est provisoire et qu'on va dire au revoir. Je tiens pas en place, en fait. Je crois qu'au bout de maximum 4 mois, quelque part, j'ai besoin de partir.
Mais il faut avoir les moyens de partir, Lou Darsan. Vous faites comment, vous, pour vivre?
Je vis de très peu, en fait. Je vis de très peu.
En travaillant un peu à côté?
Voilà, de temps en temps, de façon très, très alimentaire, ouais. Et voilà, puis en ayant mis aussi des économies avant de choisir ce mode de vie, bien sûr. Je pense que... c'est une manière de vivre différemment, mais enfin voilà, je peux pas dire je suis sortie du système ou quelque chose d'un peu une sorte de poncif comme ça, parce qu'on peut pas. Enfin voilà, on vit, on se déplace, on met du diesel dans sa voiture, on prend parfois l'avion, on fait des courses.
Qualité de votre premier roman, L'Arrachée Belle, c'est-à-dire y compris quand on est dans la nature, vous rappelez que par des petits détails, que la belle nature verdoyante n'existe pas. Hein. On tombe toujours sur une maison, sur une station d'essence, c'est-à-dire que la vie urbanistique, elle est partout.
Surtout... en Europe, je pense qu'il y a peut-être encore de grands espaces sauvages ailleurs dans le monde, même s'ils se réduisent. Mais c'est vrai que quand on se déplace en Europe, et même en France, moi j'ai beaucoup déambulé à travers la France, et les espaces complètement de pleine nature n'existent pas. Et en même temps, c'est aussi ça qui permet de faire des rencontres et de voir comment les gens vivent dans un endroit. Et ce que je trouve vraiment fascinant, les différences de territoire, les glissements, que ça soit de paysage, mais dans aussi les glissements urbains, les glissements dans la façon dont on vit. On part d'un endroit, souvent, pour certains endroits qui sont plus désolés que d'autres.
On est influencé par le milieu qu'on habite?
Ouais, je pense. Je pense, forcément.
Je vais vous demander de lire un extrait de votre roman, L'Arrachée Belle, Lou Darsan.
Oui. L'humidité de l'aube se dépose sur ses épaules. À l'heure fraîche et pâle où le corps résiste à l'éveil. Elle s'accroche en vain au sommeil. Trop de blancheur dans le ciel et de rosée dans les herbes. Elle voudrait attendre le soleil, mais le froid s'installe. Elle a dispersé les braises avant de s'endormir au bord du foyer. Il lui faudrait un café, mais elle est seule au milieu de nulle part. Alors elle se lève et se défroisse, engourdie. La rosée a humidifié sa robe de coton, qui colle au dos et aux cuisses. Elle l'enlève en grelottant et la lance sous la voiture pour marcher nue dans la prairie, en évitant les chardons que le matin fait argenter dans l'or clair des graminées.
faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins et tout ira bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et de demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour des galaxies, mon tapis volant. Le vent l'emportera.
Lui veut partir est le premier roman de David Fortems, édité par Robert Laffont. Pascal, un ouvrier syndicaliste, on est dans les Ardennes. Hein. C'est très important de dire qu'on est dans une petite ville des Ardennes. Et Pascal, cet ouvrier, donc, n'arrive pas à faire le deuil de son fils, lui, qui s'est donné la mort l'année de ses 18 ans. En récupérant le téléphone cellulaire de son fils, un fils qu'il a élevé seul, eh ben Pascal va apprendre un peu la vie cachée de son fils. Parce que partant de ce téléphone de son fils, il va à la rencontre de ses amis et de ses amants cachés. Ce qui est remarquable dans votre écriture, David Fortems, c'est que on est très très loin du drame larmoyant. C'est écrit, vous nous éloignez dès les premières pages du rivage du drame, parce que ça aurait pu être juste un drame d'un père qui perd son fils. Et ce qui vous intéresse, c'est beaucoup plus de décrire une ville, de décrire des gens et de décrire justement cette impossibilité de communication entre un père et son fils.
Oui, bien sûr. Alors, si c'est pas un drame larmoyant, j'ai l'impression que c'est parce que moi, je suis pas larmoyant. Donc, moi, j'ai pas tendance aux larmes. Donc, je n'ai pas tendance à l'écriture trop dramatique, même si le sujet, on m'a souvent dit que le sujet de prime abord fait un peu déprimé. Donc, c'est vrai, mais j'aime aussi dire que c'est une histoire, pleine d'espoir, pleine avec de l'humour aussi. Évidemment, c'est un deuil tout frais, donc c'est normal que ce soit tragique. Mais oui, j'ai l'impression que Pascal arrive à faire la connaissance de son fils, même de manière posthume. Et je suis pas sûr que tout le monde y arrive.
C'est quand même étrange. Vous êtes très jeune. Vous avez 24 ans, David Fortems. Vous avez réussi vos études, hein, puisque vous êtes admis dans cette école prestigieuse du cinéma qu'est la FEMIS. Et pourtant, vous venez avec un texte qui commence comme ça, par la mort tragique d'un jeune de 18 ans.
Oui, bah, parce que moi, je suis pas du tout comme Louis. C'est-à-dire que, moi, je me considère comme rigoureusement du côté de la vie. C'est ce que je trouve d'ailleurs bien dans l'histoire de Lou, c'est que
Lou Darçon,
de Lou Darçon, c'est que son personnage est du côté de la vie. Pour être en rupture comme ça et pour trouver une solution malgré l'enfermement, il faut être résolument du côté de la vie. Et Louis ne l'est pas du tout puisque Louis ne voit que les contraintes et il n'arrive pas à les surpasser. Il se dit pas que ces obstacles pourront être des forces. Il trouve que son milieu social et surtout une espèce de je veux rien dévoiler évidemment de ce qui arrive, mais voilà, il se trouve déjà condamné et il va pas au-delà de cette condamnation. Donc j'ai pas du tout la même histoire que Louis, donc c'est pour ça que j'ai pas le même parcours.
Mais alors pourquoi commencer votre vie littéraire, David Fortems, en racontant cette histoire? Parce que il est bien sûr question du déterminisme social. Mm-hmm. Et il est aussi question des Ardennes. C'est les territoires désindustrialisés et oubliés de la France d'aujourd'hui.
Pourquoi? Tout simplement parce que moi je pense écrire aussi des vies que j'aurais pu vivre quelque part ou que ou que j'aurais, alors là en l'occurrence, pas eu envie de vivre, mais je pense que ces histoires peuvent être des possibilités, quoi. Donc moi, je viens pas d'un milieu social favorisé du tout. Ma famille est originaire des Ardennes, donc c'est pour ça que je voulais l'inscrire en littérature dès mon premier écrit. Mais du coup, j'ai l'impression que, enfin, les volontés qu'a Louis de s'en sortir, etc. J'ai eu les mêmes, sauf que Louis n'a pas pris les bonnes décisions. Il s'est engagé dans des voies qui n'étaient pas les bonnes, qui le mènent à sa perte. Ce que moi j'ai eu la chance de ne pas faire, parce que moi j'ai eu de l'aide et qu'on m'a aidé, qu'on m'a conseillé, que j'ai toujours eu des gens à qui parler, alors que Louis est résolument seul. Donc je trouvais
des gens à qui parler et des livres comme réconfort, parce que votre personnage, c'est un féru de livres.
Oui, c'est un féru de littérature, mais je montre bien, j'ai l'impression dans le livre que la littérature ne suffit pas.
Ouais.
C'est-à-dire que les livres, c'est pas malgré tout, ça n'est pas la vraie vie. C'est une aide merveilleuse et c'est une compagnie merveilleuse aussi. Le livre, mais un livre, ça ne règle pas des problèmes quand ils sont ultra concrets comme ça. Il faut toujours, le livre peut emmener à tendre la main vers quelqu'un. Il peut provoquer ce désir de demander à l'aide, mais s'il le provoque pas, le livre ne sert à rien. Donc là, Louis, en l'occurrence, ne demande pas d'aide, donc il se retrouve tout seul à prendre une décision qui n'est pas la bonne, enfin qui est tragique.
On imagine que vous avez lu Retour à Reims de Didier Iriban, ainsi que tous les romans d'Édouard Louis, sauf que vous êtes arrangé pour que votre premier roman ne soit ni un brûlot politique, ni une fable militante, mais plutôt un conte cruel d'aujourd'hui.
Oui, c'est bah évidemment c'était des bon Édouard Louis et Iriban, ce sont des inspirations parce que je me reconnais un petit peu dans leur trajectoire, je me reconnais un petit peu dans leur pensée aussi. Mais bien sûr, enfin bon, j'allais pas faire du Édouard Louis, j'allais pas faire du Iriban, ça n'a pas de sens. Donc ce sont de grandes inspirations, mais je me permets de faire moi je pense à ma manière quoi. Donc j'écris comme je pense. Et alors on me dit souvent que ça rappelle évidemment, on me le dit très régulièrement. Virginie Despentes aussi, ça revient souvent, mais c'est parce que évidemment ce sont des gens de qui je me sens proche et qui ont des trajectoires qui ressemblent à la mienne.
Vous allez lire un extrait de votre premier roman, Lui veut partir.
Bogny-sur-Meuse, la petite ville des Ardennes où Pascal a toujours vécu, est une nouvelle ville, un regroupement de 3 villages. Château-Renaud, Bro et Levrézy, qui en font une ville éclatée sans réel centre. La petite maison de Pascal se trouve sur les collines de l'ancienne Château-Renaud. Pascal court, l'air frais sur son visage. Il court. Il se débarrasse de sa veste de costume qui empêche ses gestes d'atteindre leur ampleur, la jette par terre avec colère, l'abandonne derrière lui. Il se débarrasse aussi de ses chaussures qui lui meurtrissent les pieds alors que son pantalon trop serré, qu'il s'était offert pour un mariage ou une communion, craque à l'entrejambe. Tout ce qui lui passe par la tête, c'est cette question avec laquelle il faudra dorénavant se lever tous les jours. Comment survivre à la mort d'un enfant qui a choisi de perdre sa propre vie ?
Voilà un extrait de « Lui veut partir » de David Fortems, lu par l'auteur. Lou Darçon, vous avez lu le roman de David Fortems. Comment vous l'avez lu ?
Je l'ai lu dans le train.
Oui.
J'ai trouvé que c'était un parti pris intéressant, justement. Mais j'ai évidemment aussi pensé à Iriban et Édouard Louis, mais de prendre la voix du père, en fait, et un père qui a, malgré son amour pour son fils, ne le connaît pas du tout. Et ouais, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez terrible, en fait. Cette distance entre ces deux personnes qui se côtoient sans se parler. Et je trouve que c'est un biais vraiment intéressant.
Alors, Lou Darçon, on le sait, quand je lui demandais comment je pourrais vous présenter, vous m'avez dit écrivaine nomade. Et vous avez dit écrivain queer.
Absolument, écrivain queer. Parce que c'est quelque chose qui va au-delà, qui va au-delà des normes genrées. J'ai l'impression que moi, je tire une certaine fierté, en tout cas, d'avoir une trajectoire un peu transfuge, qu'elle soit de classe, qu'elle soit de genre, etc. C'est une construction identitaire. Voilà, c'est la construction identitaire qui est la mienne, à laquelle je suis venue, oui.
Et vous voulez continuer à écrire des histoires en passant par la littérature, ou c'est plutôt le cinéma, les séries, vous qui êtes à la Féministe en ce moment, David Fortelem?
Les deux. Je vais continuer évidemment à écrire des romans parce que c'est une façon de... Enfin, voilà, le roman, c'est l'écriture de l'intériorité, c'est l'écriture de l'intérieur. Donc c'est une écriture aussi qui peut se permettre l'omniscience, qui moi me fascine. Donc c'est pour ça que j'écris des myriades de personnages qui pensent tout à fait différemment, qui... On voit aussi que deux versions d'une même histoire sont toutes les deux valables alors qu'elles ne sont pas ressenties du tout de la même manière. Alors que l'écriture du cinéma et de la série, alors moi c'est plutôt des séries, c'est une écriture de l'image. Donc à partir de là, il n'y a pas de pensée, il n'y a que des actes.
Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre est édité par Robert Laffont. Lui veut partir. Et Lou Darçon, pour votre livre, L'Arrache est belle, c'est chez...
La Contre-Allée.
Merci d'être venus tous les deux ce matin.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Corinne Amar m'a aidé à préparer cette émission, réalisée par Vincent Rabouchard, avec ce matin la prise de son Pierrick Charles. Passez une bonne matinée sur France Culture, on se retrouve demain à la même heure.